Voici l'entrevue
Radio de la Paix.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce numéro d'entrevue sur Radio de la Paix. Le monde universitaire a célébré récemment, dans le courant du mois de juillet 2025, une figure emblématique de la recherche en Côte d'Ivoire qui a formé plusieurs générations d'intellectuels et a contribué à des avancées théoriques significatives dans son domaine, savoir la littérature de façon générale. Lui se nomme professeur Jean-Marie Kwaku. Dans cette entrevue, nous vous invitons à mieux faire connaissance avec donc cet illustre chercheur ivoirien et à voir aussi qu'est-ce que l'on peut retenir de son parcours et quel regard il jette lui-même sur ce parcours. Soyez les bienvenus à ce numéro de entrevue. Professeur Jean-Marie Kwaku, bonjour.
Bonjour M. Potin.
Alors, le monde universitaire vous a célébré dans le courant du mois de juillet 2025, précisément du 2 au 4 juillet, à travers un colloque international autour du thème général « Penser l'universel depuis la littérature ». Tout d'abord, professeur Jean-Marie Kwaku, comment avez-vous accueilli cette reconnaissance à votre endroit du monde universitaire auquel vous appartenez toujours ?
Merci. C'est l'occasion d'abord de dire vraiment merci à tous ces jeunes enseignants qui ont travaillé sous ma coupe avec moi et qui aujourd'hui considèrent que je suis en quelque sorte, selon les termes qu'ils ont employés eux-mêmes, l'initiateur en fait, celui qui les inspire. S'il ne s'agit pas de se réjouir pour moi-même, je me réjouis avant tout pour eux, si cette inspiration leur a porté et les a portés aussi là où ils sont. Donc c'est d'abord des mots de remerciement et des mots de bénédiction surtout. Ils ont formé une belle équipe qui sont approchés pour me dire qu'ils voulaient faire cela. Au départ, je ne savais même pas, j'entendais les bruits bruisser, ça bruissait. Mais je n'entendais pas vraiment. C'est un peu comme l'image de Moïse dans le buisson ardent, voyant Dieu et le feu ardent, mais qui ne brûlait point. Là, les bruits bruissaient, mais ils ne s'entendaient point. Et tout après, j'ai été surpris de voir l'annonce de cet événement dans les réseaux sociaux. Là, j'étais pris sur la nécessité, l'obligation d'accepter l'invitation. Je l'ai donc accepté avec plaisir et je les en remercie. Quelque part, le témoignage pour moi, la leçon de vie que je retiens derrière ça, c'est que finalement, ça veut dire que je n'ai pas été en de mauvais termes avec eux, ni avec la communauté universitaire dans son ensemble, puisque j'ai vu qu'à cet hommage se sont associés quand même beaucoup de chercheurs d'autres facultés, de l'université Félix-Houphouët-Boigny, d'autres enseignants aussi de l'université Alassane Ouattara, des universités ivoiriennes de manière générale, et aussi des collègues de l'étranger.
Alors, professeur Jean-Marie Kwaku, une satisfaction personnelle que l'on perçoit précisément dans l'émotion qui transparaît de votre voix, mais aussi c'est plus de 30 ans aujourd'hui dans le temple du savoir qu'est l'université, pratiquement toute une vie. Qu'est-ce que vous en retenez vous-même personnellement ?
Bien que l'universitaire, c'est quelqu'un qui ne doit pas aspirer au repos. C'est ce que j'ai compris. Ça a été des périodes de travail, parfois nocturnes, mais aussi dans la journée, qui m'ont coûté pas mal de problèmes, entre guillemets, parce que la vie familiale, ça compte. Ma fille me reprochant de privilégier ma carrière, ma femme me reprochant de dormir trop tard, etc. Bon, c'est des trucs de famille. Mais l'universitaire ne saurait et ne peut d'ailleurs, ne pourrait aspirer au repos. Nous sommes des travailleurs. Et ce que j'ai compris, c'est que le chercheur que nous sommes là doit constamment et continuellement chercher à polir sa pierre. Nous sommes des gens bruts qu'on donne au départ comme ça à l'enseignement supérieur pour enseigner. Je me rends compte aujourd'hui que je ne suis plus la même personne. La pierre a été polie et je me suis formé moi-même par la lecture, par des expériences de frottement avec d'autres collègues, notamment à travers des colloques, à travers des livres communs. J'ai appris ce qui se faisait à l'étranger. J'ai essayé aussi de l'appliquer chez nous ici. Et tout ça m'a conduit aujourd'hui à non seulement à produire du texte, mais aussi à penser de plus en plus. Je pense que je n'ai pas quelque chose auquel je pense n'est pas parvenu à faire. La question qui m'a obsédé toute ma vie du littéraire, c'était de définir le littéraire. C'est pourquoi j'ai écrit l'objet littéraire. et je crois que je n'ai pas encore exactement ce que je veux.
Vous n'avez pas encore exactement ce que vous voulez. Au moment où vous soulevez cette interrogation, on va parler donc d'introspection personnelle. La question qu'on se pose, est-ce que vous allez continuer la quête? Personnellement, réponse à cette question, malgré le fait que vous rapprochiez en griffe au niveau académique.
Oui, bien sûr, je veux dire que la partie chercheur ne s'arrête jamais. On produit ses meilleurs livres quand on est âgé, en fait, quand on a de l'expérience de la chose. On comprend mieux ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a certains passages du texte devant lesquels je m'arrête et pour lesquels je n'aurais pas eu la même lecture qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, je peux lire ces textes-là. Pourtant, c'est des passages simples, mais ceux de l'expérience capitalisée, additionnée, permet d'aller au-delà. Ce que j'ai pu apprendre aussi dans la quête en question, c'est qu'il faut les domaines de savoir que nous utilisons. Moi, je suis dans la littérature, donc dans la critique littéraire, ne sont pas suffisants. Et c'est peut-être ça qui m'a permis de bien faire de la recherche. Là, il y a beaucoup de choses que les autres disciplines nous apprennent. J'ai compris que la philosophie apportait beaucoup à la littérature. J'ai compris que l'anthropologie apportait beaucoup à la littérature. Et j'ai même compris aussi que les mathématiques et surtout la géométrie apportaient beaucoup à la littérature. Donc j'ai passé ma vie à lire beaucoup d'autres disciplines, dont celle de la psychanalyse. À lire les autres, j'ai pu trouver les chemins pour décoder les textes littéraires. Mais c'est parce que je suis allé vers d'autres sciences. Et j'ai compris que le texte en lui-même est un ensemble de codes et de mystères qui ne se donnent pas à lire comme ça. Et pour pouvoir les décoder, il faut avoir les outils de décodage. Et les outils, on ne les acquiert que par l'expérience, par la lecture, par l'écoute. Parce que la vraie capacité du chercheur, c'est le silence des sens, le silence pour écouter, le silence pour lire en fait. Comprendre que ce que autrui nous dit est plus important que ce que nous savons déjà. Puisque ce que je sais ne m'apporte plus rien. Donc j'ai commencé à lire d'autres personnes, c'est eux qui m'apprennent ce qu'il faut. Chaque mot est un apprentissage. C'est un chemin, l'apprentissage. C'est un apprentissage, c'est-à-dire un chemin pour passer de son statut de petit apprenti là, pour chercher à devenir sage. Apprentissage.
Un beau jeu de mots, juste indiqué pour celles et ceux qui viendraient donc de nous prendre en marche. Vous êtes à l'écoute de Entrevue sur Radio de la Paix. Pour ce numéro, nous recevons un illustre nom dans le domaine donc académique ivoirien, le domaine de la recherche ivoirienne universitaire, en l'occurrence le professeur Jean-Marie Kwaku, auquel le monde universitaire a rendu un hommage appuyé à travers un colloque international au thème général, nous le rappelons, Penser l'universel depuis la littérature, dans le courant du mois de juin 2025. Je reviens à vous, professeur Jean-Marie Kwaku. Tout à l'heure, un peu plus haut, vous indiquiez l'incidence, hein, pas forcément positive, qu'a eu des fois votre travail de chercheur, d'enseignant sur votre vie familiale. Alors, cela montre que votre parcours universitaire académique n'aura pas été un long fleuve tranquille. Loin s'en faut. Aujourd'hui, avec un regard dans le rétroviseur, en vous jugeant vous-même, avec beaucoup d'objectivité, quelle est la qualité majeure qui vous aura permis de tenir si bon jusqu'à cette destination ?
L'envie d'aller au bout de la recherche. Un chercheur n'est jamais satisfait. Quand on est chercheur, on cherche toujours, on n'enseigne pas la connaissance à l'université. Mais le cheminement lui-même est un cheminement vers la connaissance, dans certains domaines. Mais pour aller là, c'est un chemin et un cheminement. Il faut descendre dans les labyrinthes intérieurs, il faut descendre dans les cryptes, dans les grottes intérieures. Creuser. Parce que derrière le texte, il y a ce qu'on appelle la partie basse qui est toujours en concavité. C'est du creux. C'est là qu'il faut chercher. Le texte n'est pas extérieur. Il n'est pas en convexité. Il n'est pas bombé. Il est dedans. Et c'est dans le dedans qu'il faut aller chercher. Mais là, pour entrer là-bas, c'est du pas à pas, comme un bébé. Un bébé ne marche pas vite. Il faut aller un à un. Et quand j'ai fait le premier pas, je cherche toujours le deuxième pas. Mais les vrais pas qui vont conduire à ces chemins-là ne sont pas au nombre de deux. Vous savez que pour avoir son premier équilibre, c'est le 3. Je marche, j'ai les deux pieds posés au sol. Et pour marcher, il faut qu'un des pieds s'élève d'abord. Quand il s'élève, je suis en déséquilibre. Je repose pour retrouver l'équilibre. Mais quand le bébé a trouvé son équilibre, il ne va pas toujours tout droit. Il cherche maintenant à aller à droite ou à gauche. Il veut voir ailleurs. Quand il va, quelque chose lui souffle là-bas, ça le ramène sur le droit chemin. Et à ces deux pas qu'il a posés là, tout ça le conduit jusqu'à au moins à 7 pas. C'est au 7e pas qu'il commence à trouver sa voie. C'est voie que j'ai cherché. Je ne suis pas arrivé au 7e pas pour le moment. Je cherche. Mais je crois que ce n'est pas facile de trouver. Parce que la profusion de livres qui sont autour de nous, la qualité des écrivains nous amène à lire un peu de tout. Et on peut, même si un seul auteur, on ne peut pas s'en sortir. À plus forte raison, c'est milliers d'auteurs, c'est milliers de textes qui sont devant nous. Mais j'ai toujours voulu aller un peu plus loin, comprendre. Je pense avoir fait ce que je peux. C'est très insuffisant, mais j'espère que avant de partir, j'aurai un peu plus que ça. Voilà.
Pour le moment, on peut se réjouir que vous soyez encore avec nous. Et nous allons profiter au maximum. Professeur Jean-Marie Kouakou, alors à vous entendre, à vous écouter, on sent donc l'éternel insatisfait, mais dans le bon sens du terme, hein, la quête perpétuelle donc à votre niveau. C'est là aussi qu'il y a donc nourri, du moins ce dû couler en vous comme sève nourricière, hein, pour que vous puissiez donc tenir bon dans le domaine donc de la recherche universitaire. Alors à vous écouter, on a retrouvé aussi le qualificatif que l'on vous a pas collé, mais que vous méritez dans le domaine, dans le monde universitaire, savoir le spécialiste de l'approche structurale du test. C'est vrai que ça peut paraître un peu, on va dire, hermétique pour nos auditeurs, mais en un mot, l'approche structurale du test, c'est quoi? De façon, on va dire, en français, facile pour les auditeurs.
Il faut dire que ça, c'est dans mes premières années de chercheur. J'étais un structuraliste. Parce que j'étais à l'école de Jean Ricardou. J'ai travaillé sur le nouveau roman, et qui dit Jean Ricardou dit structuralisme, forcément. Formalisme. J'ai beaucoup aimé Ricardou, j'ai travaillé sur Ricardou pendant de longues années. Ricardou qui était mon maître que j'ai aimé, mais le structuralisme, pour en revenir à lui, c'était ses premiers moments de chercheur. J'étais étudiant, d'abord en maîtrise à l'époque, avec un directeur de recherche qui travaillait sur Rob Grier, le nouveau romancier, et c'est lui qui m'a amené à Ricardou. Je suis devenu enseignant et là j'ai commencé à travailler sur formalisme, structuralisme. C'est-à-dire que le texte en tant que structure, en fait, c'est ce que globalement c'était. Le structuralisme, c'est linguistique, hein. On a essayé de l'appliquer à la littérature. Partie du structuralisme après. J'ai voulu juste devenir néo-structuraliste. Et là, j'ai approché Lacan parce qu'avec Lacan, c'était le retour du sujet. Roland Barthes, à l'époque, déclarait le sujet, l'auteur du texte mort. Il disait l'auteur est mort. On ne veut plus dire, on va étudier que le texte, on va étudier que la structure du texte. Après, la structure du texte, ça m'a paru comme un cadavre sans os. Sans chair, pardon. Il n'y avait que les os. J'avais besoin de chair. Et là, j'ai commencé à voir que avec Lacan, il y avait l'intérêt de la chair, du texte. Il y avait l'intérêt de la chair du sujet qui écrit. Le sujet entré dans le texte. Donc je suis devenu néo-structuraliste. J'ai beaucoup lu Lacan. Et après, en lisant Lacan, je me suis intéressé après à Michel Serres, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Symboliste, géométrie symbolique. Hein. Je suis devenu entré vraiment dans le champ de Michel Serres sur la géométrie symbolique. J'ai vu là beaucoup de symboles, l'imaginaire des textes. Un peu à Durand, Gilbert Durand, mais c'était plutôt du côté de Michel Serres. Donc ça, c'est là que je suis aujourd'hui, et ça m'a amené à lire Hélène Cixous. C'est là que je suis actuellement. Hélène Cixous, ça a été une découverte pour moi, parce qu'au même moment que je disais Hélène Cixous, je m'orientais maintenant plutôt vers la recherche sur les origines du monde, en fait. Et là, je suis revenu à des questions sur le matriarcat, les sociétés premières qui étaient matriarcales, et justement, Hélène Cixous, féministe, courant spiritualiste, courant spirituel du féminisme, revenait à ce qu'on appelle la déesse mère. Et elle avait écrit un très beau livre qui s'appelle Prométhée à la fin, pour dire pas Prométhée masculin. Et là, j'ai compris qu'elle voulait montrer la part du féminin dans le monde. Comment le féminin était à la base. Et là, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de là. J'ai commencé à travailler sur ces questions. Montrer comment le matriarcat de base a été galvaudé, détruit par le patriarcat, au point que les sociétés actuelles sont patriarcales, alors que le patriarcat n'apporte que de la violence, que de la guerre. L'exemple typique du patriarcat viril, c'est Donald Trump. C'est ça le patriarcat. Quand le culte de la déesse mère était encore là, et que la déesse mère prévalait, que la femme la plus ancienne dirigeait la société, elle ne faisait que diriger, elle n'exerçait pas un pouvoir, elle ne commandait pas. Quand les hommes ont pris le truc, ils ont commandé. Et là, ils ont détruit tout ce qui était accolé à la déesse mère. Comme elle est déesse mère, on crée quoi à la place? Un dieu père. Comme elle était noire, on crée quoi à la place? Un dieu blanc. C'est de là qu'est venu le racisme à l'égard des noirs. C'est très ancien, et je vous parle de quelque chose du paléolithique. Hein. hein, parce qu'on a retrouvé des sculptures en dents de mammouth. Je parle là de l'archéologie, hein, en dents de mammouth, les sculptures de la statue de la Vierge Noire, en dents de mammouth. Donc, qui dit dents de mammouth dit l'âge glaciaire.
Professeur Jean-Marie Kouakou, à écouter l'une de vos interviews chez un confrère, vous vous inquiétiez de ce que le monde de la recherche ne vous rassurait pas. Vous indiquez que vous étiez un peu inquiet par rapport à la suite. Vous ne trouvez pas vraiment d'élan ou encore d'engouement pour la recherche aujourd'hui. Cette inquiétude demeure encore en vous. Qu'est-ce qui vous inquiète autant, professeur Jean-Marie Kouakou, par rapport à la recherche aujourd'hui?
Pour moi, la génération aujourd'hui en laquelle je crois encore, c'est une génération qui, à mon avis, va disparaître dans 10 ou 15 ans. Mais après, la relève. Je n'encadre presque plus de mémoire ni de thèse. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui viennent, je les écoute, elles ne sont même pas capables elles-mêmes de formuler leur propre sujet. On ne sent pas la hargne, on ne sent pas. Et quand certains veulent travailler avec vous, ils sont directement dans l'intelligence artificielle, ils recopient tout. Il y a plus ce qu'on appelle l'autonomie. Les chercheurs d'aujourd'hui, là, ne sont plus autonomes. Et ça m'inquiète. La part personnelle dans la recherche, on trouve ça, c'est très peu d'étudiants aujourd'hui. Je dis très peu, hein. Roméo qui est là, Roméo Kofi est l'un de mes derniers doctorants. Lui, il est très bien. Mais il y en a combien comme ça encore? Je le vois aller de colloque en colloque, à droite, à gauche, dans le monde entier. Il cherche à se former. Étudiants, hein. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis à la direction de l'école doctorale ici, on forme des étudiants. Je ne vois pas cet engouement pour aller faire de la recherche ailleurs. C'est un engouement pour faire des articles, des communications, des colloques de jeunes chercheurs. J'essaie de leur dire de faire ça entre eux pour se bonifier, pour être meilleurs, mais je ne sens pas l'engouement. Peut-être est-ce dû à la génération Fessy, hein, je pense que c'est dû à ça. Bon, la Fessy est partie, peut-être que ça va se renouveler. Beaucoup de jeunes gens sont restés arrivistes, ils ne font plus rien. Ils ne sont pas vraiment des chercheurs. Ce sont des gens, on dira en français ivoirien, qui se cherchent au lieu d'être des chercheurs.
Les pressions économiques et autres. Vous avez aussi parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, qui semble tout chambouler. Pour vous, donc, l'IA plus comme une menace pour la recherche ou un adjuvant, quelque chose qui peut nous aider?
C'est la loi de la binarité, hein. Vous savez, la même chose a toujours des côtés bons, des côtés négatifs. Par exemple, le hackage. On trouve que les hackers, c'est très mauvais, etc. Mais si les hackers n'existent pas, qui va lutter contre les mauvais hackers? Le hacker, d'abord, au départ, c'est celui qui est là pour traquer les virus, pour protéger le système informatique. C'est ce qu'on appelle les bons hackers, normalement. C'est parce que d'autres s'en sont servis pour faire autre chose. C'est la même chose, l'IA, c'est très bien. Ça peut aider, c'est un bon adjuvant. Mais si on s'en sert mal, on a eu des cas ici d'étudiants. Vous savez, quand ils veulent soutenir leur thèse, on les fait passer des tests de plagiat, en fait, par un logiciel qui détermine ce qu'il y a comme taux de similitude. La personne que j'indique avait un très bon score, à moins de 15%, et donc on a autorisé la soutenance de thèse. Mais après la soutenance de thèse, pour délivrer le permis, on est obligé de rechecker à nouveau parce qu'il y a des corrections à faire. Et la personne était allée prendre des logiciels à droite à gauche pour corriger son texte. Donc quand on a refait le check, il était à 80%. On ne peut pas donner le permis d'imprimer. Voilà. Quelqu'un est bloqué, alors qu'il a fait sa thèse. On a dû la questionner plusieurs fois, et finalement elle avoue que j'ai pris tant pour corriger. C'est fini, tu as gâté ton texte, il faut réécrire un peu encore et enlever tout ce qui est truc pour obtenir un score. C'est pas bon que les gens s'en servent sans chercher leur autonomie. C'est ça le problème. Un chercheur doit être autonome et de sorte qu'il puisse signer ce qu'il a fait. Sa production dit c'est de moi. Et ça, c'est sa fierté.
Le bon usage de l'intelligence artificielle, voilà. Alors pour finir, professeur Jean-Marie Kouakou, hein, on voudrait déjà vous remercier pour ce temps d'antenne dans notre espace entrevue. Alors nous avons tendu notre micro en préparant cette interview avec vous au doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation, professeur Adama Koulibaly. Nous allons l'écouter et nous reviendrons à vous tout à l'heure pour cette dernière partie d'interview.
Jean-Marie sait écouter. Il a une écoute extrêmement patiente. Et puis quand vous discutez, son souci, ce n'est pas d'avoir raison. Son souci, c'est de vous montrer que ce que vous êtes en train de dire, il y a peut-être une part de vérité, mais que si vous avez pris tel autre chemin, vous serez peut-être parvenu à un résultat beaucoup. Et ça, c'est souvent des choses qui manquent aux enseignants, surtout aux enseignants d'université, qu'on considère comme des gens qui sont dans des tours d'ivoire. C'est blanc ou c'est noir ou c'est comme... Jean-Marie n'est pas comme ça. Il sait écouter et il sait t'amener à réfléchir sur l'envers de ce que tu penses. Donc la qualité d'écoute pour moi, c'est une chose extrêmement chaude. Et puis c'est quelqu'un d'un commerce extrêmement agréable, qui a des références sur tout, plein de choses, et qui a ouvert, comme on l'a dit, sa maison, sa bibliothèque à la plupart d'entre nous. Nombre de ses étudiants sont toujours sur sa terrasse pour travailler. Bon, je veux dire que c'est une autre vision, parce que dans notre espace, il y a des maîtres pour qui on ne débarque pas à la maison. Mais Jean-Marie, si vous prenez rendez-vous, vous venez, il vous reçoit, vous discutez, vous mangez à sa table. Vous savez, les Africains et les Arabes ont cette façon de penser que quand vous avez mangé avec quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises idées contre cette personne. Donc manger ensemble, on appelle ça en français compliqué, la commensalité, ça renforce les liens. Un maître qui vous dit, viens, on va prendre un repas, et puis bon, à la fin du repas, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de corde qui est dénouée, et puis bon, vous pouvez aborder le problème pour lequel vous êtes venu. Ça, ce sont des choses qui marquent et qu'on a envie de transmettre. Souvent, on a un peu peur parce que les jeunes, quand ils sont venus chez vous une fois, à deux fois, bon, tout le monde n'est pas honnête, et puis on peut vous mettre sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire qu'on est dans cette dynamique-là parce que nos maîtres, je cite Jean-Marie Kouakou, l'un de ses maîtres, le professeur Pierre Nda, ils nous ont formés dans cette logique-là, d'être très près de nos étudiants, de les conduire jusqu'à...
Voilà, retour à vous donc, professeur Jean-Marie Kouakou. On vient donc d'écouter le doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation, professeur Adama Koulibaly. Nous avons noté dans l'éloge qu'il vous a adressé qu'il a dit ceci: Jean-Marie Kouakou sait écouter. Il est d'un commerce agréable. L'écoute chez vous, c'est une qualité importante?
Oui. Vous savez, si vous n'écoutez pas, vous n'apprenez rien. On sait trop peu de choses dans la vie. Ce sont les gens qui nous apprennent. Et le peu que je sais, je veux dire, si je me contente de ça, je suis foutu, quoi. Chaque fois qu'on écoute quelqu'un, on apprend quelque chose. Et ça, vraiment, je crois que c'est une vertu cardinale de toute façon. En dehors de l'enseignement et de tout, l'observation en elle-même par les sens, c'est quelque chose de fondamental pour un être humain. Ceux qui sont avancés dans les sciences occultes nous expliquent que la voûte céleste qu'on voit là en haut, là, la voûte là, c'est le livre de Dieu qui est là. Il y en a qui savent lire. Nous, on ne sait pas lire, parce qu'on ne regarde pas. Il faut garder la partie, comment dire, active de ses sens, mais sans perturber le temps de la compréhension. Je m'explique, je veux dire que il ne faut pas faire que voir, il faut regarder. Regarder actif, n'est-ce pas? C'est volontaire. Je vois involontairement. Il faut écouter, c'est volontaire, il ne faut pas faire qu'entendre. Ainsi de suite pour nos cinq sens. Si vous avez cette part de volonté, d'agentivité dans ce que vous faites, vous êtes capable de capter les mystères du monde, de capter ce que dit autrui aussi. Autrui parle si je ne l'écoute pas, et si je suis distrait, que je ne fais qu'entendre ce qu'il dit, mais je ne retiens rien. Si je vois quelqu'un, je regarde la personne comme ça, simplement, mais que je suis distrait par le voir, mais par contre, si je regarde la personne, je peux déceler en elle ce qu'il y a de beau en cette personne, la beauté avec grand B. C'est fondamental. On dit que nous sommes aveugles parce que nos yeux sont ouverts. C'est comme ça qu'on dit. C'est Héraclite qui dit ça, je crois. Voilà.
On va rester sur cette image de l'œil. Pour finir, hein, pour reprendre encore un compliment que vous a fait le doyen tout à l'heure, lorsqu'il vous adressait les mots de fin au thème du colloque qui vous a été consacré, nous rappelons, dans le courant du mois de juin. Il a dit ceci: qu'on peut retenir beaucoup de choses de Jean-Marie Kouakou. Il a parlé de deux choses, et puis il a fait cette citation, je la lis telle qu'elle, hein. L'œil ne voit pas, l'œil se souvient. Fin de citation. Alors pour finir, professeur Jean-Marie Kouakou, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, donc quel souvenir vous aimeriez qu'on ait de vous, l'œil qui ne se limitera pas seulement à voir, mais à se souvenir qu'on ait de vous, lorsqu'il s'agira de parler de professeur Jean-Marie Kouakou?
Cette phrase, on l'emprunte à Claude Simon, en fait, mais qui est un mémoriel plus qu'un homme du présent. L'œil ne voit pas, c'est-à-dire que ce qui est là ne compte pas, c'est ce qu'il y a derrière le regard, derrière le vu, là, le creux qui est derrière le vu, qui entraîne vers des souvenirs de plus en plus lointains jusqu'à remonter dans l'origine de la chose, c'est ça qui compte. C'est ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de moi? Je veux qu'on retienne de moi simplement, si c'est en termes de modèle, hein, pour les étudiants en tout cas, qui retiennent que le savoir, c'est l'humilité d'abord. L'humilité du savoir. On ne sait pas. C'est Socrate qui nous a appris ça. Il faut savoir qu'on ne sait rien du tout. À partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, on cherche à savoir. N'est-ce pas? C'est la première des choses. Et deuxièmement, le devoir. On doit chercher tout le temps. C'est un devoir. Et au bout du compte, à être chacun en lui-même un modèle pour les autres de vertu. Autour de nous, nous ne devons chercher que à enterrer tout ce qui est vice. Enterrer les vices, cultiver la vertu, aimer les autres. C'est une phrase simple chez les chrétiens, je crois que toutes les religions le disent, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aimons-nous les uns les uns. C'est pas les autres. Chacun est tourné vers lui-même en tant qu'individu. Plus personne n'est capable d'être une personne. Les gens sont des individus, ils ne sont plus des personnes. Ils ont perdu la dimension de personne. Ils sont restés des individus centrés sur eux-mêmes. Bon, j'invite les gens à l'ouverture, à l'amour, à l'ouverture vers autrui, au respect de la loi, à la démocratie, à une société juste et harmonieuse. Je refuse les dictatures, toute forme de dictature. Je refuse complètement les dictatures. Je refuse la domination. Je refuse le pouvoir, je préfère l'autorité. Je crois à l'amitié entre les gens, l'amour entre les gens. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Croire aux gens, aimer les gens, voilà.
Professeur Jean-Marie Kouakou, nous voulons vous remercier pour ce temps que vous avez accordé dans notre espace Entrevue. Je voudrais juste rappeler pour les auditrices auditeurs que nous vous recevions donc dans Entrevue pour faire un peu le point sur votre parcours académique universitaire, en saisissant bien sûr l'opportunité de ce colloque international qui a été organisé en votre hommage, qui aura réuni plus de 50 participants du 2 au 4 juillet dernier, année 2025, ici même en Côte d'Ivoire. En tout cas, comme vous l'avez dit, vous ne fermez pas la porte au monde de la recherche, au monde académique. Nous espérons prochainement pouvoir lire des ouvrages, d'autres ouvrages du professeur Jean-Marie Kouakou.
Je vous remercie. Je suis en préparation d'un ouvrage qui, pour moi, est fondamental. C'est l'ouvrage le plus important que je dois écrire. Je n'ai plus trop de temps, mais c'est vraiment ça que je tiens. Je suis en train de travailler actuellement sur la part cachée des livres, en fait. Ce que j'appelle l'ombre des livres. L'ombre du livre. C'est ça que je suis en train de travailler. J'espère pouvoir le finir. Pour moi, ce sera la chose la plus importante que j'aurai fait dans ma vie.
Voilà, nous sommes convaincus que vous le finirez et nous serons très heureux de vous recevoir dans un espace sur Radio de la Paix pour donc en discuter avec vous. Merci de nouveau à vous, professeur Jean-Marie Kouakou. Quant à vous, à mes autrices auditeurs, nous vous remercions de votre belle écoute.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.